Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie, vous écoutez La Reine, c'est l'émission d'information locale de Canal B. Et au menu aujourd'hui, l'info du jour, des nouvelles de Les Labos, ce collectif d'artistes désormais installé face au campus de Beaulieu. Un reportage à assigner lors d'une table ronde en vue des élections européennes. Il y aura de la musique dont une nouveauté, une interview pour annoncer la projection du film Another Scale, à la rencontre de deux amoureux d'escalade qui ont un projet un peu fou. Et puis, recommandations, une expo et une projection. Bienvenue dans La Reine. L'émission d'information locale, elle débute toujours avec une info du jour que je choisis parmi d'autres dans ce qui se raconte dans la presse locale. Aujourd'hui, c'est le journal d'info municipal Ici Rennes, qui est arrivé il y a peu dans la boîte aux lettres des Rennais et Rennaises, qui nous l'apprend. Les Labos pleines de beaux, c'est fini. Bon, en fait, le déménagement, il date de l'été 2023, mais c'est l'occasion de prendre des nouvelles de ce collectif artistique, décrit comme un lieu de vie et de travail à la crête rebelle depuis 25 ans. Les laboratoires a quitté le boulevard Villebois-Mareuil car la digue de la Vilaine qui borde le terrain doit faire l'objet de travaux et ce squat se serait retrouvé en zone d'expansion des crues. Direction donc à un ancien hôtel-restaurant face au campus de Beaulieu. Un déménagement qui, lit-on, ne s'est pas fait de gaieté de cœur et après des négociations difficiles avec la ville. Alors le collectif a dû rentrer un peu dans les clous, signer une convention avec la municipalité et qui comprend des engagements sur le bruit, les horaires mais aussi l'accueil du public. Certains n'ont pas suivi le mouvement, regrettant un cadre trop institutionnel. Seb, l'électricien du lieu, résume ainsi : on perd forcément un peu de notre esprit pirate, mais c'est aussi la possibilité de repartir sur de bonnes bases plus saines. L'art, lui, est toujours au cœur du projet. Et dans chaque ancienne chambre de l'hôtel-restaurant, il y a un atelier. On retrouve par exemple Youssef, designer numérique, ou encore le plasticien Georges Fortuna. Une partie d'entre eux vit sur place, mais pas tous. Les Labos, c'est aussi une cuisine collective, une salle de bain, une salle de bar pour accueillir 80 personnes, également une galerie d'exposition, une salle de répétition, le traditionnel atelier réparation de vélo. Alors les mètres carrés perdus dans le déménagement n'entament pas l'énergie du collectif qui prévoit déjà d'acheter un chapiteau avec le soutien de la ville de Rennes pour porter son regard vers de nouvelles disciplines comme le cirque ou les arts de rue. Allez, après cette info du jour, on passe à un reportage. Je vous le dis, je me pose de plus en plus de questions sur la façon dont je vous parle des élections. J'ai la tâche de garantir un traitement impartial des candidatures, mais les professions de foi, ça n'engage que moi, sonnent souvent un petit peu creux. Bon, lundi 8 avril, l'association européenne Liffré-Cormier organisait un débat avec la grande majorité des partis candidats aux élections européennes. Ça se passait à Assigné. Et on rappelle que ces élections, elles ont lieu le 9 juin prochain, en tout cas pour la France. Dans un contexte de désintérêt d'une grande partie des électeurs pour ce rendez-vous, avec une crise de confiance globale envers les élus, j'ai demandé aux participants présents de mettre en avant une proposition forte pour l'Union européenne. Rappelons que sur le bilan des politiques menée ces quatre dernières années, des avancées ont eu lieu sur l'encadrement des géants du numérique, sur la transition écologique avec le Green Deal, également avec un fort soutien, on s'en rappelle, durant la crise Covid et puis l'aide apportée plus récemment à l'Ukraine. Reste que les politiques économiques et agricoles restent ancrées dans un libéralisme assumé, avec, dernier projet en date, un pacte asile et immigration qui annonce un durcissement du ton sur cette question. Allez, retour à Assigné pour jouer mon job de journaliste honnête et impartial.
L'idée de cette soirée part d'une initiative de Volt, liste qui a contacté tous les comités de jumelage en France. Je suis Ulf Schmidt, je suis du comité de jumelage local, ici d'Assigné, qui jumelait avec Wartenonk. Ceci explique la présence de Volt parmi nous ce soir. Même si, au dernier sondage, cette liste ne rassemble pas un pourcentage très élevé des intentions de vote pour le scrutin du 9 juin. La sélection des participants à notre table ronde se veut par ailleurs équilibrée et représentative du paysage politique français. Cette liste sont représentées. Il n'y a pas tout le monde et nous assumons ce choix. Pour la parité femmes-hommes, on est bien désolé, c'est raté aussi, toutes les excuses. Mais on fait avec le monde qui veut bien se déplacer.
Je m'appelle Sven Frank, je suis allemand et je suis candidat tête de liste Volt. Nous sommes aujourd'hui dans une coalition avec les PRG et REPS. La coalition s'appelle ETE. C'est ETE pour écologie, Europe et territoire. Donc Volt, c'est un mouvement fondé par trois étudiants après le référendum sur le Brexit en 2016, une Française, une Italienne, une Allemande. Donc notre ADN est très européen. Nos objectifs sont de se battre contre le nationalisme, pour plus d'implication des citoyens dans la politique et pour avancer le projet européen ensemble en traverse des frontières. Donc aujourd'hui, nous sommes plus de 30 000 membres dans 30 pays en Europe. Nous avons déjà des députés en Chypre, en Bulgarie, en Pays-Bas. Nous avons aussi deux eurodéputés sortants, une de l'Allemagne et une des Pays-Bas. On va essayer de nous présenter dans 16 pays. Ce n'est pas facile, donc chaque pays organise sa propre élection avec soit des signatures à chercher, soit, comme en France, il faut financer le profession de fonds et les bulletins. Et donc, en tant que petit mouvement aussi très jeune, donc nous avons beaucoup d'étudiants chez nous, beaucoup de personnes qui n'ont pas vraiment d'expérience en politique. Donc c'est un jeu à découvrir, d'apprendre comment les jouer pour avoir une chance de le gagner aussi.
Et donc voilà. Je pose la même question à tous les participants au débat de ce soir. S'il fallait mettre en avant une proposition pour l'Union européenne dans un contexte qu'on sait des affections des électeurs en France et ailleurs en Europe pour ces élections-là, et puis aussi avec une crise de la confiance envers les élus.
Alors, la proposition, c'est dans notre programme, c'est d'élire le Parlement européen, pas comme aujourd'hui avec la liste nationale. Donc, vous ne connaissez probablement pas vos candidats locaux qui sont aujourd'hui au Parlement européen. C'est pas comme le municipal avec une mairie ou les législatives avec des circonscriptions et des représentants. Vous pouvez appeler et contacter. Donc, pour nous, il faut élire le Parlement dans deux façons. Une avec une liste transnationale. Ça veut dire une liste qui présente toute l'Europe, donc avec des candidats de la France, mais aussi l'Allemagne, la Pologne, donc tous les pays dans une liste. Et les deuxièmes sont au niveau local, avec des circonscriptions régionales, pour avoir aussi une identification locale, pour rendre l'Europe plus proche du quotidien. Nous avons beaucoup de propositions dans notre programme, donc moi en tant qu'Allemand, parce que c'est aussi une soirée organisée par le jumelage franco-allemand, où je suis également très actif à Lille, qui est jumelée avec Cologne. J'habite en France depuis 2012. Je veux perdre mon droit à voter en Allemagne dans quelques ans, parce que si je quitte l'Allemagne après, je pense, 20 ans, je ne peux plus voter en Allemagne. Je ne peux pas voter ici aussi, sauf aux élections municipales et européennes. Et donc c'est aussi dans notre programme pour pas seulement avoir, parce que c'est les marchés uniques européens, donc j'ai la liberté en tant que facteur productiviste de me déplacer d'un pays à l'autre et de vivre là-bas, mais pour qu'on arrive à une Europe démocratique, il faut aussi avoir le droit à voter dans toutes les élections dans le pays où on réside. Donc pour nous, c'est la première liberté démocratique européenne d'avoir le choix de voter dans son pays de résidence après une certaine durée d'être là-bas. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, c'est 12 mois.
Laurence Maillard-Meignery, députée d'Ille-et-Vilaine et présidente de Renaissance Ille-et-Vilaine. Alors le premier mot d'ordre, si je puis dire, c'est d'abord de dire que nous avons besoin d'Europe. On ne peut pas se permettre de voir l'Europe affaiblie par des divisions politiques, des divisions internes. Redire la nécessité que cette Europe a d'exister en tant que grande démocratie dans le monde. Dans un monde qui est fractionné, qui est en crise avec un grand nombre de pays qui élisent des populistes, voire des partis extrêmes. L'Europe est une puissance qu'il faut absolument préserver, prendre conscience que le Parlement européen, c'est l'instance de débat démocratique. Parfois, ça paraît un petit peu loin des gens, ce qui s'y passe. Mais c'est aussi ça, la beauté de l'Europe, c'est aussi des parlements, un parlement qui travaille avec des députés de toutes les nationalités européennes, des 27 pays de l'Union européenne, et qui organisent des coalitions, qui s'entendent, ils sont en majorité relative, eux, et ils arrivent à s'entendre, à discuter longuement de textes. Et moi, j'aimerais évidemment que l'Europe arrive, dans les prochaines années, à renforcer cette puissance qu'elle est, et se rapprocher des peuples aussi, en étant avec une incarnation très forte sur les sujets de l'écologie, bien sûr, de l'alimentation, de l'agriculture, qui sont des sujets très forts pour l'Europe et qui peut aussi permettre à des pays qui sont un peu en recul sur ces sujets-là de les aider à voilà, entamer des transitions vers des mobilités plus douces, décarboner l'Europe, relocaliser des industries pour moins importer des émissions de gaz à effet de serre et puis rassurer les Européens parce que l'Europe a cette faculté de le faire. Elle l'a fait pendant la crise sanitaire avec le plan de relance qu'elle a su débloquer avec une centaine de milliards d'euros dédiés pour retrouver des emplois, soutenir les entreprises dans une période très difficile. Et je pense que c'est ça, avec les vaccins aussi. L'Europe est capable de grandes choses et il faut lui donner le pouvoir de faire. Voilà.
On redit de quel groupe, de quelle coalition fait partie Renaissance
Alors Renaissance fait partie de Renew. Alors Renew, c'est un parti qui a été créé, en fait, qui regroupe les partis du centre pro-européen, très clairement, et qui aujourd'hui, il y a une délégation française Renew au Parlement européen, et il y a un groupe Renew au Parlement européen qui rassemble les centristes démocrates et progressistes de l'Europe.
Bonjour, je m'appelle Léonard Tomaso, je suis responsable jeune d'Ille-et-Vilaine, donc responsable jeune 35. J'ai rejoint le Rassemblement national il y a maintenant un an et demi, et je suis actuellement en troisième année de droit à Rennes. Alors maintenant, pourquoi j'ai décidé de rejoindre le Rassemblement national ? Parce que pour moi aujourd'hui, le Rassemblement national est le seul à considérer le peuple français. La France, le peuple français qui crie au secours depuis des dizaines d'années et qui n'a jamais été entendu. Et je pense sincèrement aujourd'hui que le Rassemblement national est le seul parti à écouter réellement les Français. D'abord, vous avez raison, c'est vrai que ces élections européennes sont un petit peu effacées, notamment on le voit à l'abstention qui est énorme, mais justement c'est aussi notre pire ennemi. Et moi j'encourage vraiment les Français à aller voter parce que maintenant leur vie se décide à Bruxelles. Voilà. Énormément justement de normes sont décidées à Bruxelles et impactent la vie des Français. Et si vous voulez, par exemple, rien qu'en parlant des agriculteurs, on va parler du Green Deal, nous voulons sortir du Green Deal. Nous voulons sortir du Green Deal en fait, qui noie nos PME, nos agriculteurs, nos petits commerçants sous de la paperasse administrative énorme, sous un enfer administratif. Et donc nous voulons leur permettre en fait, de pouvoir vivre dignement et vivre vraiment de leur profession sans être embêtés, parce que je vais rester poli, par justement une paperasse mais qui est aujourd'hui incommensurable. Voilà.
Donc, contre, on va dire, la lourdeur administrative, mais contre le Green Deal, c'est plus que ça.
Alors oui, le Green Deal, en fait, si vous voulez, c'est une neutralité carbone d'ici 2050. Mais en fait, ça passe aussi par des normes qui sont intenables aujourd'hui pour nos agriculteurs. Alors, une transition écologique, bien sûr, mais lorsque déjà nos agriculteurs pourront vivre avec plus de 700-800 euros par mois. Voilà. Donc nous, on veut d'abord prioriser, comment dirais-je, une vie digne pour nos travailleurs, avant de se lancer dans des projets faramineux, pharaoniques, que l'on ne peut pas tenir. Voilà.
Daniel Salmon, sénateur d'Ille-et-Vilaine, groupe écologiste. Moi, je pense que nous sommes dans un moment très difficile où tout le monde, face aux énormes défis qui sont devant nous, face à la géopolitique qui est assez inquiétante, tout le monde a tendance au repli. Mais je pense qu'il ne faut pas faire du repli nationaliste. Bien au contraire, il faut aller vers plus d'Europe, vers une Europe fédérale, une Europe qui dépasse un certain nombre de barrières qu'elle s'est elle-même données. Il faut aller sans doute revoir la règle de l'unanimité qui est très bloquante et qui nous empêche vraiment d'agir là où il le faut. Faudrait dans ce monde qui est incertain, et effectivement, clairement, l'Europe a la capacité, a la masse pour pouvoir continuer à peser dans ce monde. Et pour moi, l'Europe doit toujours être le phare, une certaine forme d'humanisme, et aussi le phare pour la lutte contre le réchauffement climatique, qui est quand même, malgré tout, le plus gros sujet d'aujourd'hui. C'est un immense défi que l'humanité n'a jamais rencontré. Et si on ne lutte pas contre ce réchauffement climatique, on peut se poser beaucoup de questions sur la survie de l'humanité, tout simplement.
Est-ce que les politiques européennes vont assez loin sur ce sujet-là ?
L'Europe a été très volontariste, mais aujourd'hui on a quelques inquiétudes parce qu'on est en train de détricoter tout un tas de politiques qui ont été menées. On les détricote face à un espèce de populisme qui s'inscrit dans le court-termisme et qui ne veut plus voir que le monde de demain ne sera pas le monde des 30 glorieuses d'hier. On est aujourd'hui devant des choix de société. une société qui est la continuité, la fuite en avant de ce qu'on a connu, un développement prédateur assis sur de l'extractivisme et qui nous mène tout droit dans le mur. Et puis un autre choix, un choix de société qui s'appuie sur davantage d'humanité, sur de la sobriété, sur de l'efficacité, sur un monde sans doute réenchanté, qui permet de s'ouvrir également sur l'autre et qui nous permettra demain eh bien, d'avoir des conditions de vie meilleures et apaisées.
Amar Belal, donc, je suis candidat sur la liste de Léon Desfontaines de la Gauche Unie, rassemblant le Parti communiste, mais d'autres partis aussi, comme l'Engagement, GRS et les Radicaux de Gauche.
Et vous êtes du territoire rennais ?
Moi, personnellement, je suis enseignant à l'IUT de Rennes et je suis au Parti communiste responsable à l'écologie nationale. Bon, l'éloignement des questions européennes par rapport aux citoyens, parce qu'on pense que l'Europe, c'est une question très technocratique et qui n'a pas forcément énormément d'impact sur nos vies de tous les jours. Mais par exemple, vous avez la Banque Centrale Européenne, qui de fait, on a délégué notre souveraineté monétaire à la Banque Centrale Européenne, au niveau du continent. Et cette Banque Centrale Européenne n'a pas de contrôle politique. Hein. Son but, c'est la stabilité des prix et de gérer et de veiller à, comment dire, à l'application de l'austérité dans l'espace européen. Or, nous, ce qu'on propose, c'est de reprendre la main politiquement sur cet outil monétaire qui est très important et que ce soit le politique qui décide des taux d'intérêt, de pouvoir prêter de l'argent aux États pour des dépenses sociales et écologiques, à des taux très faibles, à 0%, pour les grands défis qui viennent. Par exemple, la BCE récemment a augmenté ses taux d'intérêt. Eh bien, rien que ça, c'est 15 milliards dans la charge de la dette de la France. Donc ça a des conséquences directes, parce que ça sert aussi d'alibi à toutes les politiques d'austérité. On a vu Bruno Le Maire qui propose 10 à 20 milliards d'euros de baisse du budget de l'État et s'attaquer à l'école, à la recherche, etc. Alors que l'école est déjà à l'os. Hein. L'hôpital aussi, on baisse le budget. Donc on a des conséquences très concrètes du fait qu'on a une Banque Centrale Européenne qui échappe à tout contrôle politique. Donc nous, ce qu'on propose, c'est techniquement, hein, ça permettra de ne pas changer les traités, c'est d'avoir un fonds social et écologique qui serait alimenté par cette Banque Centrale Européenne. Et ce fonds social et écologique, il pourrait prêter aux États pour toutes ces dépenses-là. Parce qu'aujourd'hui, les traités européens empêchent la BCE de prêter directement aux États.
Alors, Béatrice Acny-Robin, je suis militante socialiste, engagée à la ville de Rennes, où j'ai un mandat d'adjointe à la maire en charge du quartier du Blône. Et je suis également candidate sur la liste du Parti Socialiste et de Place Publique.
Est-ce qu'on peut préciser où on retrouve le Parti Socialiste à l'Union Européenne dans quel
Alors, il est dans le groupe des sociodémocrates, donc le groupe SED, qui est le deuxième groupe au niveau du Parlement européen. L'Europe est là pour protéger les Européens, les Européennes. C'est un espace de paix, de démocratie, de débat, de liberté, d'égalité. Et c'est surtout important pour la jeunesse, parce que construire l'Europe, construire une Europe forte et puissante, c'est préparer l'avenir de notre jeunesse. Et une jeunesse qui a besoin d'un avenir en paix, d'un avenir solidaire et d'un avenir aussi qui s'engage résolument dans les transitions, notamment énergétiques et climatiques. Alors l'Union européenne, elle a besoin de faire davantage, d'être plus redistributif, d'être plus solidaire et d'agir davantage vers les territoires, vers les villes, vers les campagnes, vers celles et ceux qui en ont le plus besoin. On a créé une Europe monétaire économique, il faut maintenant qu'on passe aussi à une Europe des solidarités qui s'ancre concrètement dans la vie des habitants et des habitantes. Et cette Europe-là, elle peut intervenir dans l'emploi, dans la formation, dans l'insertion, dans la mobilité des jeunes. Je pense au programme Erasmus. Elle doit intervenir aussi dans un habitat plus écologique, moins énergivore. Elle doit aussi intervenir dans des mobilités décarbonées. Et puis, bien évidemment, sur des sujets qui nous préoccupent tous, comme le sujet des exilés, où là aussi on souhaite que l'Europe soit davantage protectrice des exilés, plus accueillante, et sur des sujets plus d'actualité comme l'agriculture, l'alimentation, on a besoin d'une Europe aussi qui nous permette de bien manger, qui facilite le bien manger pour toutes et tous, et qui donne aux paysans, aux paysannes des moyens de subsistance réels.
Je m'appelle Maxime Bergonzo, donc moi je travaille dans l'élevage, mais là aujourd'hui je suis 46e de la liste de Manon Aubry de l'Union Populaire, soutenue par la LFI pour les élections européennes. Le parti LFI siège dans le groupe de la gauche unitaire européenne, gauche verte nordique. Voilà. Et ben moi je propose tout simplement que face à cette défiance, on renégocie les traités qui font perdre confiance aux citoyens européens envers l'institution. Je pense notamment par exemple aux traités de libre-échange qui sont négociés dans le dos des citoyens, par exemple au traité avec le Canada qui a été négocié en catimini à Bruxelles sans être ratifié par la plupart des États membres. Et donc ça, par exemple, pour moi, ça me semble être pas normal. Et donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on renégocie et on va s'y employer si notre liste elle sort majoritaire lors des élections du 9 juin. Donc moi, je travaille pour des éleveurs. Hein. Je ne suis pas éleveur en tant que tel, mais ce que je constate, c'est que le libre-échange et puis surtout la dérégulation des marchés, elle fait chuter les prix, en fait, tout simplement. Elle fait chuter les prix et elle met en concurrence des éleveurs qui sont sur des petites surfaces avec des petites structures en Bretagne face à des structures gigantesques en Amérique du Nord ou alors peut-être demain avec le Mercosur qui est en train d'être négocié au Brésil. Et donc voilà, c'est tout un modèle social, écologique qu'on veut défendre. Et donc c'est pour ça qu'il faut renégocier ces traités, quoi. Et je voudrais aussi dire que j'ai été surpris. J'ai vu qu'à Bruxelles, il y avait 70 lobbyistes par député européen. Je trouve que ça fait un peu beaucoup. Et donc je pense que si on veut redonner confiance aux gens envers leur politique, il faut que les élus, en fait, ils écoutent le peuple et pas les lobbyistes de Bruxelles. Voilà.
Et puis Patrick Toil de la Maison d'Europe de Rennes nous animera dans quelques instants la deuxième partie de notre soirée sur les institutions européennes. Merci à lui.
On a tendance à dire c'est la faute à l'Europe et donc on est contre l'Europe. Ça c'est une absurdité, mais c'est une simplification qui est souvent utilisée par les médias et par certains politiciens. Alors, je dirais aussi que il n'y a pas vraiment de déficit démocratique en Europe. Ce qu'il y a, c'est un déficit de discussion politique au niveau européen. Dans les coins.
Satellite Jockey avec le morceau Le Soir sur Canal B. C'était une nouveauté musicale sélectionnée par Yann, notre programmateur ici à la radio, et à retrouver sur un album sorti le 1er mars, Plays Music. C'est le titre du dernier album de ce quintet Satellite Jockey, actif depuis 10 ans. On retrouve sur ce disque les fondements pop 60s du groupe, qui côtoient des sons digitaux et des instruments acoustiques qui se mêlent dans la joie à des rythmiques post-punk. Et enfin, la langue française de William Scheller qui alterne avec l'anglais de Paul McCartney. Vous venez d'en entendre un extrait de cet album dans L'Arène, l'émission d'information locale de Canal B. Et on continue l'émission d'info du jour avec une interview maintenant.
Février 2021. Au beau milieu d'un hiver glacial, Mandy et Kenzo décident de se lancer dans un projet fou. Tout plaquer, laisser derrière eux leur appartement, leur travail, leur quotidien et partir. Vivre. Un voyage qu'ils préparent depuis maintenant un an et qui va changer leur vie. Cette aventure, c'est Another Scale Project.
Maud Kerichard et Manju Eas, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes les réalisatrices du film Another Scale qui sera projeté la semaine prochaine. Rendez-vous pour ça à l'Hôtel Dieu avec The Roof et Origine, des structures qui mènent des projets alors qu'ils sont éphémères mais toujours bien d'actualité au sein de l'Hôtel Dieu. Et la projection, c'est mercredi 17 avril à 19h. On prend un tout petit peu d'avance. On commence peut-être par dire que votre société de production, elle est installée tout près de Rennes, donc vous êtes un peu des locales.
Exactement.
Bah, on est local d'origine et puis on a, pour les études, décidé de partir à la capitale. Donc voilà, on est heureuse de revenir chez nous pour projeter notre film.
Elle a été créée quand, cette société Chimera Films ?
En 2022.
En 2022, donc c'est assez récent.
C'est très récent, oui.
Donc installée à Bain-de-Bretagne, au sud de Rennes, vous êtes toutes les deux présentées comme des professionnelles de l'image depuis plusieurs années, avec une spécialité pour Maud qui est télépilote de drones professionnels. On va y revenir avec le film Another Scale. C'est donc votre première réalisation à toutes les deux ?
C'est notre première réalisation de documentaire et de moyen-métrage. Donc, beaucoup de nouveautés pour ce film.
Un gros challenge.
Un film documentaire de 53 minutes pour lequel vous avez suivi deux personnages dans un projet un peu fou. On les présente, ils ont plusieurs casquettes, à la fois dans la recherche, mais aussi passionnés de nature.
Exactement, bah, du coup c'est l'histoire de Kenzo et Mandy qui sont donc, comme tu disais, deux professionnels de la nature. Donc Kenzo qui est géographe environnemental et grimpeur, pas professionnel, mais on va dire dans toute sa vie tourne autour de l'escalade et de la montagne. Et Mandy qui du coup est prof de
biologie,
ouais,
professeur de biologie. Si je dis pas de bêtises, au BTS de la montagne à Annecy. Et depuis peu, monitrice moyenne montagne.
Ils sont tous les deux en couple, on le précise, parce que c'est aussi ça qui va être mis à l'épreuve, peut-être, durant cette aventure. Aventure qui débute au printemps 2021. C'était donc il y a 3 ans, en fait, que le projet a été lancé, où ils décident de tout quitter.
Exactement. Quitter, ouais. Tout quitter en plein Covid. Ils ont acheté un van et sont partis sur les routes de France pendant 6 mois. Et nous ont dit « Hey, est-ce que ça vous dirait qu'on ne se fasse pas un projet tous les quatre ?» Et voilà d'où est parti Another Scale.
Leur projet, c'est donc de partir grimper dans plusieurs coins de France pendant 6 mois sur ce qu'on appelle les Big Walls. On explique ce que c'est aux gens qui, comme moi, n'y connaissent rien à l'escalade.
Eh bien, c'est des grandes voies, donc le mot français. Donc, c'est plusieurs longueurs d'escalade qui s'enchaînent. Et donc, ça peut être 5 heures de grimpe, 6 heures de grimpe, 7 heures de grimpe sans s'arrêter. Voilà, une longueur classique en escalade, on va dire que peut-être c'est une trentaine, quarantaine de mètres. Et bien ça, c'est 30-40 mètres cumulés pour faire des voies de 200 mètres, 300 mètres.
Tout en hauteur. Et donc Mandy et Kenzo ont pour motivation là, d'aller grimper sur plusieurs de ces big walls avec quand même un but ultime à leur projet, une expédition bien précise et qui a un drôle de nom.
C'est même pas peur. Donc c'est une voie dans le Vercors de 250 mètres. Et leur but, c'était déjà de réussir à grimper ce Big Wall et d'installer un portaledge à l'intérieur. Donc le portaledge, pour expliquer, c'est vraiment une tente qu'on va accrocher sur la paroi et qui est tout autant un gros défi parce qu'il y a très peu de personnes qui expliquent comment monter un portaledge dans la vraie vie. Donc c'est vraiment de l'expérience qui se fait sur le terrain. Et donc là, il y avait en même temps l'aspect Big Wall 250 mètres où il y a eu 12 heures de grimpe, donc il faut tenir les 12 heures, et installer tout le portaledge et dormir en hauteur sur la paroi.
On a dit que ça se passait dans différents coins de France, c'est quand même plutôt localisé dans le sud cette aventure
En gros, c'était un projet pour 6 mois, nous on les a suivis pendant un mois, deux fois 15 jours. La première partie, on était à Seine et dans le Thorac, donc plutôt localisé dans le sud central, on va dire. Et la deuxième partie en juin, c'était dans le Vercors. Et eux ont pas mal vadrouillé, mais nous, c'est les deux endroits surtout où on les a suivis.
Ce qu'on n'a pas précisé, c'est que Mandy Thion et Kenzo Eas, ils pratiquent une escalade dite traditionnelle. Ça va nous amener à des questionnements autour de la place de l'homme dans la nature, mais par quoi elle se caractérise, cette escalade traditionnelle ?
Alors l'escalade traditionnelle, en fait, c'est vraiment, on va dire que c'est utiliser toute la paroi, tout ce qui est utilisable dans la paroi, et également rajouter des éléments qui permettent de faciliter la grimpe. Donc ça veut dire que dans une voie, on va dire dans une escalade sportive, il y a des pitons qui sont installés sur la paroi, donc ça veut dire qu'on n'a plus qu'à clipser nos dégaines. Et donc dans une escalade traditionnelle, c'est vraiment, il va y avoir à certains endroits des pitons, et à d'autres endroits, peut-être que pendant 60 mètres, il n'y aura absolument rien, et donc il faudra soi-même se rajouter des éléments. Donc ça peut être ce qu'on appelle des coinceurs, qui sont des petites pinces qu'on rajoute dans des failles et qui nous permettent de clipser en fait les différentes dégaines sur la paroi.
Et ça, c'est de l'équipement temporaire, ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on grimpe, on les enlève, donc ça n'a pas d'impact.
L'idée, c'est de ne pas abîmer le rocher, en fait.
Exactement.
Pendant ces 6 mois, Mandy et Kenzo, ils vont donc ralentir leur rythme, évoluer dans la nature et puis prendre le temps de la regarder. Ça, c'est pour le côté qui a l'air plutôt cool, dit comme ça. Cette expérience, évidemment, elle a aussi mis à l'épreuve leurs limites tant physiques qu'émotionnelles. On en dit un mot là-dessus ?
Ouais, l'escalade, c'est quand même un sport très engageant et on va dire qu'il y a du risque quand même. Et là, quand on fait de la grande voie, qu'on grimpe pendant 12 heures, ça peut être compliqué parfois de s'accorder, d'accorder ses niveaux. On peut quand même dire que Kenzo et Mandy n'ont pas les mêmes niveaux. Kenzo a un niveau plus important. Donc lui doit s'adapter. Ils doivent s'adapter aux conditions météo, à la falaise. Donc c'est vraiment s'accorder. C'est ce qu'on dit dans le film, c'est l'escalade, c'est être une cordée. C'est pas juste, même si on pense que c'est un sport qui peut être assez individuel, c'est quand même un truc qui se pratique à deux.
De l'extérieur, quand on n'est pas initié, on peut se demander mais pourquoi prendre, parce qu'il y a quand même un risque important, particulièrement sur cette escalade dite traditionnelle, pourquoi prendre autant de risques ? Est-ce que c'est pas aller trop loin dans la pratique ?
La question peut se poser parfois. Pourquoi prendre ce risque ? En fait, je pense que c'est pas perçu. Après, je suis pas dans leur tête, mais je pense pas que ce soit perçu comme un risque. Je pense que c'est vraiment. Bien sûr, il y a dans tout sport, il faut faire attention. Mais là, je pense que c'est vraiment perçu comme un défi et aussi une communion. En fait, il y a vraiment ce côté. On est en pleine nature et en fait là, on est vraiment livré aussi à cette nature et aux conditions. Et donc, on est un petit peu à la merci aussi de la montagne. Donc, ça veut dire qu'on aura beau prendre toutes les précautions possibles, et bien, il y a quand même une partie imprévisible de la météo, etc. Et je pense que c'est surtout ça qui les anime en fait dans ce sport.
Côté réalisation, Manju Eas, vous avez expliqué, je l'ai lu dans un article, avoir dû relever un défi à la fois artistique et physique pour filmer cette aventure. Vous êtes celle qui les avait peut-être un peu suivies, vraiment vous aussi, dans de la grimpe ?
Exactement. Donc moi, j'étais sur la paroi avec eux, à plusieurs niveaux de hauteur. Et moi, ça a été un gros défi physique et émotionnelle, exactement, mais sur plusieurs aspects. Sur l'aspect sportif, parce que je pratique l'escalade, mais comme une bonne parisienne dans une salle où tout est très aseptisé. Et donc là, se retrouver à 250 mètres de haut, en plein brouillard, et partir première toute seule et les attendre en bas, ça a été très, très, très stressant. Donc là, moi, j'ai vraiment eu l'impression de repousser mes limites et vraiment émotionnelles. Et j'ai beaucoup pleuré sur cette voie. Et aussi, c'était un défi très technique, mais technique du coup en termes de tournage, parce que on n'avait jamais fait ce genre d'aventure. Et donc filmer, et ben encore une fois, à 250 mètres de haut, c'est totalement différent que quand on est au sol.
Pour stabiliser l'image notamment.
Pour stabiliser et puis pour trouver les positions, parce que du coup moi j'étais vraiment avec eux, sauf que quand t'es sur une paroi, t'as pas forcément de plateforme où tu peux prendre les positions qui sont les plus simples et les plus adéquates pour faire tes plans. Donc là voilà, j'ai dû m'adapter et trouver des façons d'être efficace et d'avoir les images qu'on voulait ramener quoi, pour notre montage.
C'était aussi un défi technique dans le sens où nous, on était dans les mêmes conditions qu'eux. Donc eux dorment dans leur van, c'est un peu l'histoire de leur film. Nous, on dormait dans notre van.
En totale autonomie.
En totale autonomie, il faut recharger les batteries, on avait des panneaux solaires. Même pas peur, la grande voie du film. On est à une heure de marche entre le parking où il y avait les vannes et le haut de la voie. Donc tous les jours, il faut transporter la caméra, les batteries, le matériel pour charger, etc. Donc c'est quand même...
toute une logistique, quoi.
Toute une logistique, c'était un peu challengeant.
Maud Carichard, vous êtes-vous la spécialiste des prises de vue par drone? C'est ça qui, dans le film, permet de donner de la hauteur aux images et de figurer les échelles dans lesquelles évoluent les deux personnages, pour revenir au titre du film, Another Scale. C'est peut-être là qu'il y a eu des choix de fait qui vous distinguent complètement. J'ai pas pu, moi, m'empêcher de penser là, à ce projet d'un influenceur qui s'apprête à grimper le mont Everest, où on est avec une image centrée sur le type, en l'occurrence, pour montrer son effort... les limites qu'il repousse justement, mais où le paysage justement ne reste qu'un paysage. Là, vous cherchez à donner un vrai rôle en fait à la nature.
Ouais, exactement. Du coup, Another Scale, effectivement, c'est le changement d'échelle. Donc, on a plein de moments dans le film où on est en gros plan, serré avec eux, etc. Et on a essayé de rajouter de la hauteur, de les voir tout petits sur ces grandes falaises, de voir eux, leur installation, le portal edge, et vraiment de prendre de la distance, parce qu'effectivement, Prail, dans le Vercors, c'est des énormes falaises de 250, 300 mètres, et c'est spectaculaire, quoi. Mmh. Donc c'était intéressant de les voir un peu, que le spectateur soit à leur place, en fait.
Et c'était aussi intéressant, il y a certaines images où on les perd, en fait, ils disparaissent même dans cette falaise et dans cette nature qui les engloutit, en fait, comme s'ils faisaient vraiment partie de cette nature.
Et on parle d'échelle, là où le film va plus loin qu'un sujet de grimpe, c'est que replacer l'être humain dans un espace plus grand, ça permet aussi de défendre une vision des liens entre ces humains, le paysage, et puis aussi les non-humains, qui sont pas très loin d'eux parfois. C'est des sujets qui vous travaillent ?
Oui, c'est des sujets qui nous travaillent beaucoup.
Ouais, exactement. Alors nous, c'est vrai que c'est ce qu'on aime, être dans la nature. On fait pas mal de randonnées, on fait du kayak, on se balade, on est toujours dehors, en fait. C'est vrai que de notre métier, c'est quand même quelque chose de très technique où on est en ville, mais en fait, tout notre temps libre, on le passe dehors, à observer la nature, à être au bord des cours d'eau. Voilà, donc effectivement, ce film, c'est une partie de qui on est aussi.
Est-ce qu'il y a eu un souvenir plus marquant que les autres, et peut-être qui n'apparaît pas à l'image, mais sur tout ce temps-là de tournage ?
Moi, je peux en parler un peu. On a fait quelques plans. Alors, il y a juste une image dans le film d'un troupeau de moutons qui est passé le soir avec son berger, une espèce de transhumance, un soir où nous, on campait le long d'un cours d'eau, et on a fait quelques images. On entendait le son des cloches des moutons. C'était franchement un super moment.
D'apaisement.
Et il y a eu aussi l'une des premières matinées du projet Même pas peur, où du coup on s'est réveillé très tôt parce qu'on avait plein de choses à faire. Et on a vraiment eu l'impression, c'était un peu le moment suspendu où on se réveille en même temps que la nature, où le soleil n'est même pas encore levé. Les oiseaux commencent tout juste à chanter, et on était le long d'un cours d'eau, et on a vraiment eu l'impression d'être seul seul au monde dans... Alors, il y avait aussi qu'on était en plein confinement et qu'il y avait littéralement personne dehors, sauf nous. Mais on était vraiment tout seul avec cette nature qui ne s'était pas encore réveillée. Et c'était une sensation très agréable, ouais.
Donc, tu remarqueras que nos deux anecdotes, on est au bord d'un cours d'eau. On adore.
La semaine prochaine, mercredi 17 avril, le public pourra découvrir donc ce film Another Scale à l'Hôtel Dieu à Rennes. On le rappelle, c'est un lieu qui accueille des projets à vocation éphémère, temporaire. Et parmi les projets occupants, il y a donc The Roof, qui est une maison de l'escalade, et Origine, qui est à la fois un espace brasserie et un bistrot. C'est peut-être le moment où on dit que votre film, vous cherchez à le diffuser vraiment sur des lieux dédiés à l'escalade et dans des salles de cinéma. On peut peut-être passer le message à des auditeurs.
Et oui, si jamais déjà vous avez envie de venir voir ce film et vous faire une idée, ensuite n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on est preneuses, on fait pas mal de projections, on échange avec le public. Voilà, c'est des moments conviviaux où on profite tous ensemble de cette projection et des petits moments après.
Et il y a eu plusieurs projections là dans le coin, dans la région Bretagne, et d'autres à venir. On peut renvoyer vers le site internet chimerafilms.fr où les dates sont mises à jour. Et c'est le moment où je vous représente Maud Kerichard et Manju Eas. Vous êtes donc les deux réalisatrices de ce film Another Scale, qui sera projeté la semaine prochaine à Rennes, à l'Hôtel Dieu. Ce sera donc mercredi 17 avril à partir de 19h. L'entrée est libre, je dis pas de bêtises.
Oui, c'est prix libre.
Prix libre. Et la projection sera suivie d'un débat, d'un échange en votre compagnie. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
On himself onto the road, the dust up to his nose. Put that anchor down to find a place where he could go, cause he was looking for the shelter from a storm. You were looking for a place that you could call your own. You kept on now walking past the signs you used to see. Kept on getting used to dropping anchor in the sea. Cause you're looking for a shelter of a storm. Looks like news that storm is coming closer every day. No.
Storm par Patrick Watson, c'était ma sélection musicale, un titre que vous pouvez retrouver sur un album qui date un peu, Close to Paradise. C'était le deuxième disque de ce musicien québécois qui date de 2006, Depuis, il y en a eu 5 autres, le dernier sorti en 2022. Vous êtes toujours sur Canal B dans l'Arène, l'émission d'information locale qui fête ses 40 ans cette année. À cette occasion, on prévoit plusieurs choses qu'on vous annoncera très bientôt, mais d'ores et déjà, un répondeur téléphonique qui attend vos souvenirs de la radio sous forme de messages vocaux. Pour participer à rien de plus simple, vous ajoutez le 07 60 24 95 77 dans vos contacts WhatsApp et vous enregistrez votre message vocal. Vous savez, en gardant votre pouce sur le micro, vous vous présentez en quelques mots, vous racontez votre souvenir marquant, que ce soit un groupe découvert sur nos ondes, une participation à une émission, un moment de radio mythique ou encore une rencontre déterminante. Et enfin, les messages vocaux, c'est magique. Vous pouvez aussi nous faire écouter des ambiances autour de vous, de la musique dans votre salon, un concert dans un bar ou encore le son de votre cafetière. Soyez créatifs, ces messages vocaux ont vocation à être diffusés lors d'un événement un peu spécial. Et si vous n'êtes pas sur WhatsApp, pas de panique, vous pouvez vous enregistrer avec vos dictaphones et nous envoyer le résultat à l'adresse email lucie@canalb.fr. Avant de se quitter, c'est l'heure de la recommandation du jour, puisqu'à chaque fois en fin d'émission, on vous donne des petits conseils d'événements à vivre près de chez vous, aussi parfois des conseils de lecture, de podcasts, de documentaires, même d'associations à suivre. Il y en a pas mal sur le territoire. Aujourd'hui, on annonce une exposition et une projection. On commence avec deux rendez-vous en fait, qui sont annoncés par l'association France-Palestine Solidarité. Rennes-Gaza, l'art visuel en résistance, c'est le nom d'une exposition qui rassemble plusieurs travaux. Il y a les photographies d'Ahmed Chabou, Ajoua et Majdi Fati qui témoignent de la vie sous le blocus et les bombardements à Gaza. Aussi une série de Catherine Lescolan-Kéré là sur des manifestations rennaises et puis des affiches d'artistes gazaouis et étrangers. Tout ça c'est à voir à la fois sur la façade du 4 bis Information Jeunesse tout près du métro Charles de Gaulle mais aussi du côté de la Mimobile dans le quartier de la Plaine de Beaux. À chaque fois c'est jusqu'au 30 avril et il y a une soirée de soutien qui est organisée dans ce chouette lieu qu'est la Mimobile. C'est ce mercredi 10 avril à partir de 20h avec au programme des dégustations, des contes, un court-métrage de Bachar El-Belsibi et puis aussi de la musique avec un concert de Oud. Ça, ce sera en compagnie de Florian Baron et Shadi Morshed. Par ailleurs, un rassemblement est annoncé toujours par l'association France-Palestine Solidarité. Ce sera samedi prochain, le 13 avril, de 15 à 16h, place de la République à Rennes. Plusieurs revendications, vous l'imaginez, notamment un cessez-le-feu immédiat à Gaza, la levée du blocus, l'arrêt des bombardements et des sanctions vers Israël. La deuxième recommandation, c'est une proposition des Dingueries de la Terre, un parcours d'écologie populaire qui a été imaginé par plusieurs structures Front de mer, Cœur Esquem ou encore les soulèvements de la terre. Jeudi 11 avril, c'est une projection qui est organisée. Ça se passe à partir de 19h au Laboratoire Artistique Populaire, 10 Place du Gros Chêne, à Rennes. On est donc dans le quartier Maurepas. Le film projeté, c'est Gagarine. Il date de 2021. L'histoire de Youri, 16 ans, qui rêve d'être cosmonaute dans la cité Gagarine à Ivry. Avec l'aide d'autres habitants et habitantes, il va résister à la démolition de ce lieu qu'il voit comme son vaisseau spatial. Le reste du programme des Dingueries de la Terre, qui se poursuit jusqu'au mois de juillet, est à retrouver en ligne sur frontdemer.org. C'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h sur Canal B et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour suivre l'émission, pensez à vous abonner à la newsletter, le courrier de la Reine, le détail et les podcasts sont à retrouver sur canalb.fr. Allez, je vous dis à bientôt.